Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter actuellement sur les ondes en 107.5 FM ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Claude Gingère. Bonjour.
Bonjour.
Claude Gingère, vous êtes référé pour la région de Drôme, donc de l'Anticor, une association qui est née depuis quelle année d'ailleurs ?
Alors, Anticor a été créé en 2002. 2002, c'est la fameuse année des histoires des HLM de Paris. Et elle a été fondée par le juge Alphen, en compagnie de Madame Tessier, journaliste. Suite à tous ces événements qui avaient, entre autres, amené le procureur de Paris à envoyer un hélicoptère dans l'Himalaya pour récupérer l'un de ses collègues de façon à remplacer celui qui ne se montrait pas assez souple à Paris.
Monsieur Toubon à l'époque.
C'est tout à fait ça.
Cette association s'est constituée suite à certains travers de nos dirigeants. Comment s'est engagée cette création ?
Alors, il y avait déjà un certain temps que pas mal de gens trouvaient que ça fonctionnait pas de façon tout à fait optimale, que l'indépendance de la justice n'était qu'un mot relativement creux. On savait pertinemment que les procureurs dépendaient directement, bien sûr, du ministère de la Justice et qu'il y avait un pouvoir hiérarchique puissant. Malgré tout, à un certain moment, c'est devenu envahissant. Et là, trop, c'était trop. Et des gens se sont mobilisés, à partir de 2002. Cette association, aujourd'hui, compte un peu plus de 4500 adhérents. Elle a 92 groupes locaux, donc comme le mien, celui de la Drôme. Nous sommes 140 référents, parce qu'il y a quelques départements importants où il y a plusieurs référents. Et nous avons actuellement 85 dossiers importants au pénal, comme on dit, concernant des affaires diverses et variées, toutes liées à la corruption, c'est-à-dire détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence.
Avant de continuer, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui se sont engagées donc au sein de l'Anticor. Est-ce que c'est par de leur fonction qu'elles ont pu se retrouver ensemble, ou alors c'est simplement la notion de citoyenneté qui veut changer les choses ?
Non, tout à fait. Au début, cette association était quasiment composée exclusivement de juristes, de magistrats, d'avocats. Des gens qui eux-mêmes étaient confrontés quasiment tous les jours à ça. Et petit à petit, ça ne s'est pas fait un jour, un matin, en décidant que ça allait changer, petit à petit, la composition de cette association a évolué vers la société civile. Et donc aujourd'hui, les magistrats et les avocats, les juristes en général, ne sont plus du tout... non plus du tout la majorité dans l'association. La croissance est forte, puisque nous sommes passés de 3500 à 4500 adhérents en un peu plus d'un an, quoi. Il semblerait donc que la situation actuelle, outre les efforts que nous faisons pour recruter, puisque en tout état de cause, il faut savoir que nous avons 0 € de subvention, ce qui est une volonté délibérée de façon à avoir un maximum d'indépendance. Donc, malgré nos efforts, et au-delà de nos efforts, nous sommes rejoints par des gens qui, eux, de nouveau, ressentent plus que d'habitude le poids des influences et des interventions du pouvoir.
Comment se constitue, vous parlez de 85 dossiers en cours actuellement, en voie de justice ou...
Oui.
Et dans ce cas-là, comment se constitue un dossier par qui et sur quels critères précisément et sur quelles sources vous vous basez justement pour préparer ces dossiers ?
Très bien. Alors ça, c'est en fait c'est le fondement même de notre activité. Au départ, nous avons des lanceurs d'alerte. Soit nous les connaissons déjà, soit nous faisons leur connaissance. Des gens qui attirent notre attention sur des situations qui leur paraissent, à eux, anormales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles le soient, parce que quelquefois, on peut être surpris. La loi est un peu retorse. Donc des lanceurs d'alerte et des gens qui nous signalent des anomalies, comme par exemple l'attribution de permis de construire de façon aberrante, des achats inconsidérés de certaines administrations sans appel d'offres, etc., etc. À partir du moment où on a un signalement, localement, nous commençons à faire une petite enquête, je dis volontairement petite. Nous commençons à faire une enquête pour voir s'il n'y a pas, à ce niveau-là aussi, conflit d'intérêts, si les gens ne sont pas en train de défendre leur propre vision des choses et pas forcément les règles. Une fois que cette enquête a défini un certain nombre, par rapport à un certain nombre de critères, nous paraît recevable, nous la transmettons à un pôle juridique. Nous avons un pôle juridique constitué d'un certain nombre de magistrats, d'avocats, etc., qui travaillent bénévolement pour Anticor. Et ce pôle juridique va établir un dossier. Ce dossier est soumis au conseil d'administration d'Anticor, qui décide, là, de poursuivre ou pas. Et là, si vous voulez, je voudrais m'appesantir deux minutes sur un point très, très, très précis et très particulier. C'est que l'association Anticor bénéficie de la personnalité morale. Alors, la personnalité morale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'association est habilitée à se porter partie civile et de ce fait, à déclencher, je dirais automatiquement, une enquête par un juge indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons passer outre le consentement ou la bonne volonté du procureur de la République locale, qui se sont quelquefois montrés plus que réticents pour intervenir. Donc, personnalité morale, ça signifie, encore une fois, je me répète, ça signifie la possibilité de se porter partie civile et donc de déclencher quasiment automatiquement une enquête auprès d'un juge indépendant, ce n'est pas un procureur, c'est un juge d'instruction, un juge indépendant qui démarre l'enquête approfondie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et alors ça dépend d'un élément qui actuellement nous préoccupe. C'est que pour le bénéfice de cette personnalité morale, nous devons obtenir un agrément du ministère de la Justice. Cet agrément est attribué pour 3 ans. Et tous les 3 ans, donc, il doit être renouvelé. Et nous sommes en période de renouvellement. Donc, nous avons envoyé au ministère de la Justice notre demande de renouvellement d'agrément, qui a été reçue, ça on le sait. L'ennui, on va dire ça comme ça, pour être mesuré, l'ennui, c'est que le ministre de la Justice actuellement, qui est en poste, n'est-ce pas ? Fait l'objet de notre part d'une citation devant la Cour de justice de la République pour une affaire qui concerne cette fameuse histoire des fadettes, c'est-à-dire l'enquête qui a été menée par le pôle financier, le fameux pôle national financier, de façon à déterminer s'il y avait ou non une taupe quelque part dans la magistrature qui informait les personnes poursuivies de l'avancement des affaires. Donc, M. Dupond-Moretti est l'objet de notre part, au-delà du fait qu'il est ministre, il est l'objet de notre part d'une citation devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, dans la mesure où il est lui-même parti de l'affaire pour laquelle il a demandé une enquête au pôle national contre le pôle national financier. Donc, nous estimons qu'il y a prise illégale d'intérêt de sa part et il est cité pour ça. Donc, comme c'est lui qui doit théoriquement nous accorder l'agrément, on s'interroge. Ceci dit, tout récemment, un événement est intervenu devant le tollé de sa démarche, provoqué par sa démarche. 43 et quelques plaintes ont été déposées dans le même sens que la nôtre, n'est-ce pas ? Il a voulu se dessaisir d'un certain nombre d'affaires, se dessaisir d'un certain nombre de décisions, et donc il a confié au Premier ministre le soin de répondre, entre autres, à notre demande d'agrément. Donc, on est un peu moins inquiet, mais on n'est quand même pas complètement rassuré.
Pourtant, la justice est indépendante. Elle ne devrait pas être tributaire d'un ministre, quel qu'il soit.
Oui, mais là, ça fait partie, si vous voulez, des choses qui sont dans les mains du ministre et directement du ministre. C'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à une commission ou à qui que ce soit. C'est lui qui décide s'il attribue l'agrément ou pas.
Alors, vous parlez de pôle, moi je pense à Parquet National Financier.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Hein. On peut dénommer la même chose
oui, tout à
par
fait.
Ces deux adjectifs.
Enfin, c'est les mêmes personnes.
D'accord. Justement, vous parliez d'une augmentation d'un millier d'adhérents en une année. Est-ce que c'est le contexte actuel qui a permis cette augmentation d'adhérents ?
C'est pas tout à fait. Je vais pas dire ça comme ça. On va pas dire que c'est le contexte actuel seul. Depuis déjà un certain temps, il y a de plus en plus de gens qui s'interrogent sur le fonctionnement de la justice, sur le fonctionnement de l'administration, sur les comportements d'un certain nombre de décideurs. Et clairement, ça date pas d'hier. On peut considérer que déjà, à l'occasion des quinquennats de M. Sarkozy et de M. Hollande, on trouvait que les choses n'allaient pas comme elles devraient. Donc, il est vrai que plus récemment alors, pour répondre complètement à votre question, l'indifférence montrée par le pouvoir aux récriminations, aux manifestations, aux pétitions, etc. Le fait que l'on puisse considérer que pratiquement aucune espèce d'intervention de ce type n'est plus prise en compte, même de la part d'organisations comme les syndicats ou les associations, ça a fait, en quelque sorte, pour employer une expression courante, ça a fait un peu déborder le vase. Mais il était déjà bien rempli, quoi. Voilà, on ne peut pas... pour faire la part des choses, on ne peut pas attribuer seulement à la situation actuelle le ras-le-bol, encore pour employer une expression courante, de plus en plus de gens. Voilà.
Je crois que la dernière affaire qui a vraiment alerté l'opinion, c'est M. Cahuzac, hein, qui avait omis certaines déclarations. Depuis, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un certain laxisme vis-à-vis des gens au pouvoir sur certains écarts, notamment ceux de la corruption, par exemple ? Et eux-mêmes, vivent-ils dans une sorte de scrupule ou est-ce qu'ils sont plutôt dans une fuite en avant ? Est-ce qu'on peut décrire un peu ce type de personnes ?
Oui, je pense qu'on peut résumer, sans que ce soit... excessif. On peut résumer les choses de la façon suivante. À partir du moment où certaines personnes, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais à partir du moment où certaines personnes accèdent à certaines fonctions, ils éprouvent un sentiment d'impunité qui semble leur permettre, du moins de leur point de vue, de faire les choses telles qu'ils ont envie de les faire sans forcément tenir compte des règles, de la réalité, de la loi, etc., etc. Je pense par exemple à notre ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, sitôt nommé, il déclenche une enquête auprès du pôle national financier pour une affaire le concernant. Il est, me semble-t-il, l'un des mieux placés, en tant qu'avocat d'abord et en tant que ministre ensuite, pour savoir qu'on ne déclenche pas une enquête de ce type quand on est parti à l'affaire qui est en cause. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près inconcevable. Or, il semblerait bien qu'il n'ait pas beaucoup hésité, quoi. Hein, bon, ce n'est pas moi qui vais juger. Hein, là, il y a des spécialistes qui sont chargés de l'affaire. C'est donc leur affaire. Nous attendons, d'autant plus que le mode de fonctionnement de la Cour de justice de la République fait que, une fois que nous avons donc cité cette affaire, il y a une commission spéciale qui est chargée de regarder si elle prend en compte la demande ou pas. Si cette commission décidait de ne pas prendre en compte la demande, il n'y aurait aucune suite. Nous, on serait plus, il n'y a pas d'appel possible, on ne pourrait pas relancer l'affaire, etc. Donc, on espère d'abord avoir notre agrément, et puis ensuite, on espère que l'affaire sera prise en compte et que les choses seront plus claires. Je voudrais revenir sur votre question qui est cruciale. Quand on regarde quelques-unes des affaires qui sont en cours, on a un peu de mal à comprendre que des gens qui accèdent à des responsabilités importantes, qui ont une formation importante, qui ont, comme on dit, fait des études, puissent considérer que tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème, quoi. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail des affaires en cours, justement parce qu'elles sont en cours. De même que je ne rentrerai pas dans le détail non plus une fois qu'elles ont été réglées, parce qu'on ne commente pas les décisions de justice. Mais on peut s'étonner, je ne citerai pas de nom, on peut s'étonner qu'un ancien président de conseil départemental, après avoir démissionné à cause des règles de cumul de mandat, continue à utiliser le matériel, le personnel et les locaux du conseil départemental pour son activité propre. Je veux dire, c'est quand même stupéfiant de la part de gens qui sont dans la politique depuis des décennies, et deux fois. Donc on connaît deux cas principaux qui sont d'ailleurs actuellement sous le coup. Bon, après... Si vous voulez qu'on parle de cette propension qu'ont certains à ne pas respecter les règles, on peut parler d'un autre sujet qui nous préoccupe actuellement, si vous voulez, c'est le projet de loi dite loi ASAP, A-S-A-P. Alors, la loi ASAP, c'est pas « as soon as possible », comme disent les Britanniques, ça n'a rien à voir, encore qu'ils sembleraient très pressés de la faire passer. Si on résume brièvement, cette loi est en fait, aura principalement comme résultat de rendre compliqué l'accès aux documents administratifs. Or, ça, c'est le cœur de notre activité. Si nous n'avons plus accès aux documents administratifs, comment faire une enquête, comment...
Ce que permet votre agrément ?
C'est ce que, justement, notre agrément nous permet, premièrement. Et deuxièmement, il existe un organisme qui s'appelle la CADA. La CADA est un organisme qui peut juger de la réalité, de la justification du refus de communiquer un document. Si une administration refuse de nous communiquer un document ou plusieurs documents ou carrément un dossier... Nous pouvons nous adresser à la CADA, qui, elle, va donner son avis et va dire à l'administration en question, mais si, il faut leur communiquer les documents. Or, simultanément à la sortie de cette loi ASAP, il est question de réformer aussi le fonctionnement de la CADA. Donc, ça s'inscrit bien dans la perspective d'une logique de limitation de l'accès aux documents administratifs.
Une petite précision, on peut peut-être signifier aux auditeurs ce que sont le sigle ASAP et CADA.
Alors, ASAP, très franchement, je ne sais pas. Là, sur le coup, je ne sais pas. Mais d'ici tout à l'heure, je peux y accéder. Quant à la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, tout simplement. Hein, c'est un organisme qui existe depuis longtemps et qui a fait la preuve de son utilité. Son efficacité, c'est une autre histoire, mais son utilité, c'est certain.
Elle est sous quelle tutelle de ministère ?
Alors, c'est une bonne question. Je viendrai sur le sujet. Je peux y venir maintenant, si vous voulez. Il y a une décision qui a été prise en plein mois d'août par décret. Hein, donc, ce n'est pas un texte de loi, c'est pas ça. Qui a modifié les attributions des différents représentants des ministères. Dans chaque département, il y a un ou des représentants de chaque ministère. Bon, jusqu'à présent, donc, chaque ministère, je me répète, avait un représentant dans chaque département. À partir du mois d'août, c'est plus comme ça. C'est le représentant du ministère de l'Intérieur qui détient la relation avec tous les autres ministères. Donc là aussi, on sent bien la volonté de maîtriser au maximum, au plus près, si vous voulez, l'ensemble des choses. Donc, dans la pratique, si vous voulez, théoriquement, la CADA dépendait du Premier ministre, je dis bien, de Matignon, du Premier ministre. Maintenant, dans les faits, elle va passer sous la coupe du ministère de l'Intérieur.
Alors, le représentant du ministère de l'Intérieur, c'est le préfet ?
Alors, pas forcément. C'est le préfet, bien sûr. Le préfet, lui. Alors, lui, le préfet, il est représentant de l'État, carrément. Mais il y a aussi un représentant, outre le préfet, il y a aussi un ou plusieurs représentants du ministère qui est chargé de gérer les dossiers au jour le jour, etc., etc.
Vous parliez d'un peu de l'action sociale. Comment ça se constitue et dans quel type de territoire est-ce que ça peut aller de la métropole au simple village, ces démarches? Est-ce qu'il y a eu des cas concrets à tous ces niveaux d'urbanisation?
Alors, tout à fait. On a constaté, si vous voulez, jusqu'à présent, il y avait des exceptions, mais principalement, Anticor s'est occupé de dossiers qui étaient des dossiers qu'on va qualifier de nationaux, si vous voulez, parce que soit ils concernaient des ministres, soit ils concernaient des dossiers qui étaient traités directement par les ministères. Mais ça commence au niveau du village de 150 habitants. Je prends toujours le même exemple avec la femme du maire qui est nommée secrétaire de mairie à plein temps et qui n'est présente à la mairie qu'une fois par semaine. Ça, c'est un exemple entre autres. Donc si vous voulez, ça c'est typique de cet arrangement hein, qui fait que comme ça, la femme du maire, elle a un petit revenu complémentaire. En règle générale, tout le monde dit « Oh, c'est pas grave ». Bon, enfin, c'est pas grave. Mais nous, on dit « Ça commence comme ça ». Et puis ensuite, chaque fois qu'on franchit un échelon, ça prend des proportions. Et on en arrive finalement à un chiffre que je peux vous citer, si vous voulez. C'est qu'on considère qu'entre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et les détournements de fonds publics, on est à quelque chose comme 120 milliards d'euros par an. 120 milliards d'euros par an. Je veux apporter une précision supplémentaire. J'espère qu'on ne m'en voudra pas trop. Mais pour passer des millions aux milliards, il ne faut pas ajouter un zéro. Il faut ajouter trois zéros. Donc ça veut dire que 120 milliards, ça fait 120 000 millions d'euros. C'est colossal. C'est colossal. Donc nous n'avons pas l'intention chez Anticor de régler cette question du jour au lendemain. Mais le chiffre devrait pouvoir faire réfléchir un peu plus parce que c'est en fait le résultat d'une accumulation d'éléments, y compris celui que je citais tout à l'heure, plus des détournements colossaux comme ceux qui peuvent intervenir dans le cadre de l'affaire de la Tour Triangle. Là encore, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une affaire qui porte sur ce qui s'appelle couramment du favoritisme, c'est-à-dire l'attribution sans espèce de contrôle approfondi de crédits énormes à des entreprises qui ne justifient pas de leur devis, on va pour simplifier, si vous voulez. Voilà.
La place de Anticor aujourd'hui, mis à part les démarches que vous provoquez au niveau des tribunaux, parce que là forcément ça atterrit chez eux, médiatiquement, comment vous êtes perçu au niveau national? Est-ce qu'il y a encore à faire pour justement mettre en avant votre action?
Oui, oui, alors il y a beaucoup à faire, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a encore pas si longtemps, c'était surtout une affaire, une association qui se préoccupait d'affaires d'envergure nationale, parce que les personnes concernées avaient une position tout à fait importante. La volonté d'Anticor, c'est premièrement de s'ouvrir vers les actions locales. Je vous donnerai quelques petits exemples de ce que nous avons engagé comme action, et de façon à populariser la démarche, si vous voulez. Il ne faut pas que Anticor soit considéré comme une espèce d'association constitué de personnes particulièrement investies dans tel ou tel domaine. Ça devrait être l'affaire de tous. Ça devrait être l'affaire de tous. Alors, en matière d'action, si vous voulez, donc, compte tenu du contexte actuel, là, pour revenir sur votre question de tout à l'heure, compte tenu du contexte actuel, il y a un certain nombre de choses qui sont en route. Il y a des interviews qui ont déjà eu lieu. La nouvelle présidente d'Anticor a été approchée par les télévisions nationales, complément d'enquête, l'œil du 20h, enfin des choses comme ça que tout un chacun regarde. Hein. Bon, donc il y a d'un côté il y a cette action là. Et d'un autre côté, il y a l'action au jour le jour, telle que j'ai l'honneur de mener, qui consiste à se faire connaître, à rencontrer des gens, à venir parler à la radio, etc., de façon à ce que chacun se sente concerné, si vous voulez. C'est pas une affaire de spécialiste, c'est pas réservé aux avocats. Moi, personnellement, je suis pas juriste. Je suis un ancien cadre dirigeant dans le domaine de l'analyse médicale. Et à ce titre, je fais partie de la commission santé qui a été créée chez Anticor pour s'occuper, premièrement, de la façon dont a été gérée la crise sanitaire actuelle. Ça, c'est un pan de notre activité. Et d'un autre côté, nous allons ouvrir l'œil, l'oreille, de façon extrêmement attentive sur la façon dont va être gérée la mise en place de la vaccination. Parce que quand on voit comment a été mise en place la distribution des masques et comment a été gérée la pratique des tests de dépistage, on peut avoir des doutes sur la façon dont va être gérée l'arrivée des vaccins.
Oui, justement, la commission de santé a publié hier les 5 protocoles qui sont établis déjà. Ça, c'est un détail. Par contre, ce que je voulais savoir, en ce temps de pandémie et donc de confinement, est-ce que cela a été propice aussi pour certaines personnes de profiter de ce marasme pour justement aller dans le mauvais sens du service envers l'État ?
Alors, nous avons...
À vos connaissances. Hein.
À notre connaissance, il y a effectivement un certain nombre de pratiques qui se sont, on va dire ça comme ça, c'est pas drôle pourtant, mais qui se sont popularisées. Il y a des gens qui, tout d'un coup, se sont dit qu'il fallait, dans un contexte difficile comme ça, c'était peut-être l'occasion, puisque l'attention pouvait être détournée, hein, à cause des difficultés que d'aucuns rencontraient, c'était peut-être le moment d'en profiter, quoi. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, effectivement, trouvent toujours l'occasion de tirer la couverture. Je prendrai un seul exemple. On en parle peu pour l'instant, mais c'est la multiplication de la pratique du faux chômage partiel. Alors, il y avait des entreprises, et pas des moindres, Hein, depuis la petite entreprise de quelques personnes jusqu'à la multinationale, qui bénéficie ou qui se croit autorisée à bénéficier d'un effet d'aubaine en disant « bon, écoute, tu rentres chez toi, tu es en chômage, mais par contre, si on te téléphone, normalement, tu n'as pas de problème pour répondre, quoi. » Vous voyez, je veux dire, donc on s'arrange. Alors ça, c'est une expression qui est très, très courante. Hein, bon, on va s'arranger. Voilà, on s'arrange. Alors, on s'arrange avec les règles, on s'arrange avec les textes, on s'arrange avec l'éthique, on s'arrange avec la morale. Par contre, il faudrait que ces gens-là se disent que, du coup, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés confinés et qui ont eu plus de temps que d'ordinaire pour s'intéresser aux affaires de la cité. Et donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que nous avons des difficultés plus que ça même pour faire des réunions. Quasiment, on n'a plus fait de réunions physiques. Hein. Moi, les expressions du style présentiel, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, on n'a plus beaucoup. On a multiplié les réunions en vidéo, mais il y a des gens qui n'ont pas vraiment accès au numérique. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment le matériel pour... Il y a des gens qui n'ont pas vraiment la compétence pour s'en servir. Donc, on ne peut pas multiplier et généraliser les réunions en vidéo parce que, dans la pratique, c'est compliqué, finalement. Quoi. C'est compliqué. Mais les contacts personnels, le fonctionnement en réseau, les relations... Aujourd'hui, j'ai eu au téléphone 3 adhérents de la Drôme de... d'anticorps qui m'ont appelé pour me demander tel ou tel sujet, pourquoi pas comme ci, pourquoi pas comme ça, est-ce que nous avons mis notre nez dans le mode de fonctionnement de cette fameuse commission d'autorisation de mise sur le marché des vaccins, est-ce qu'il y a eu des appels d'offres, etc., etc., parce qu'on a quand même réfléchi à la réalité concrète de ce genre de démarche, parce que ça vaut quand même la peine, quoi.
Est-ce que tout ça ne semble pas consécutif, justement, à ce qui se passe sur la planète entière, c'est-à-dire une espèce d'état d'urgence à sauver l'économie et donc de passer outre certaines règles? Ça se remarque particulièrement aussi depuis ces derniers temps.
Notre remarque par rapport à ça... Elle est la suivante, c'est que à l'occasion du début de cette crise et du premier confinement, le président lui-même avait déclaré priorité à la santé, l'économie, on s'en occupera. Bon, clairement, l'évolution a eu lieu. La santé, bien sûr, il faut le dire, on continue à s'en occuper, sans les moyens qui seraient nécessaires. Et ce manque de moyens est la conséquence de politiques antérieures sur lesquelles je pourrais revenir parce que c'est mon domaine. Mais effectivement, il y a eu petit à petit un glissement. Et aujourd'hui, le mode d'organisation qui est adopté, l'organisation du confinement, l'organisation par rapport au lieu de culte, l'organisation par rapport au match de football ou de rugby, etc., etc., laisse une beaucoup plus grande place à l'économie que précédemment. Ça peut s'expliquer dans la mesure où, comme on a affaire à une durée de plus en plus longue, il est de plus en plus difficile de faire l'impasse sur un certain nombre de choses. Ça, moi, nous sommes les premiers à reconnaître que ce n'est pas simple. Bon, se trouver confronté à ce genre de situation, c'est terrible. Bon, de même que, et je fais là un parallèle qui peut-être va faire dire à certains que ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand on dit, vous savez, que les élus, tous pourris, quoi. Bon, nous, chez Anticorps, alors que notre job, c'est de débusquer les pourris, on va dire ça, parce que c'est la réalité, nous disons aussi une autre chose, c'est qu'en France, si on fait les comptes, grosso modo, il y a 550 000 élus. 550 000 élus. Depuis le conseiller municipal jusqu'au président de la République, au global, ça fait 550 000. Bon, on ne va pas considérer qu'ils sont tous pourris. Il y a là-dedans une petite minorité qui en profite beaucoup, mais c'est quand même une toute petite minorité.
Et qui fait de gros dégâts.
Mais qui fait de gros dégâts, 120 milliards.
d'ailleurs sur les finances, mais aussi sur la mentalité
et aussi sur l'état d'esprit, absolument.
Entre autres. Je voudrais revenir sur un petit côté pédagogique. Vous citez, vous êtes anticorruption, pardon, et vous citez 4 délits, donc le détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Est-ce que brièvement, on pourrait résumer chacun des délits ? En quoi consiste-t-il ?
Bon, alors, c'est une question de. C'est pour les juristes, ça. Bon, moi, je ne suis pas juriste, mais je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Et puis, il faudra que je pense à évoquer tout à l'heure les initiatives que nous prenons dans le domaine de l'enseignement, où nous proposons au lycée, au collège, etc. Mais on en parlera après, si vous voulez. Donc, le détournement de fonds publics. Bon, je dirais que ça peut se définir relativement simplement dans un budget de commune. Il y a des fonds qui ont été destinés par exemple, refaire une route. Je prends volontairement des exemples simples. Refaire une route, etc. Et puis finalement, l'un des conseillers municipaux doit faire arranger le chemin qui amène à sa maison. Eh bien, il fait arranger le chemin qui mène à sa maison en utilisant les fonds qui étaient prévus pour améliorer les routes. Voilà, ça, c'est typique. Et ça, je vais dire, si on débusque tous ces cas-là, il y en a quand même un certain nombre. Hein. Bon, alors, abus de biens sociaux, c'est se tromper, on peut dire ça comme ça, c'est se tromper dans l'attribution des crédits. C'est-à-dire qu'en fait, on abuse de la destination qui était théoriquement dévolue à telle ou telle partie du budget. Voilà. Ensuite, la prise illégale d'intérêt. Alors, prise illégale d'intérêt, c'est justement l'incrimination qui est reprochée au ministre de la Justice. C'est-à-dire prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire profiter de sa position, n'est-ce pas, pour intervenir dans une affaire à laquelle on est parti. Alors, ce n'est pas forcément une affaire judiciaire. C'est aussi parce que on s'arrange pour que bénéficier personnellement de trucs, tout simplement parce qu'on a atteint une certaine notoriété ou une certaine position. Et le trafic d'influence. Alors le trafic d'influence, là on va prendre un des exemples, il y en a une multitude, mais un des exemples c'est les élections. Alors le trafic d'influence c'est acheter des voix, hein, ou c'est bénéficier de fonds que certains électeurs pourraient libérer à titre individuel pour certains qui en profiteraient pour obtenir des avantages, quoi. Voilà. Alors, je vais certainement me faire remonter les bretelles par de vrais juristes, mais grosso modo, c'est ça, quoi.
Bon, si ça peut permettre quand même d'avoir une certaine notion pour les auditeurs, c'est bien aussi. Et puis, donc, on parlait de pédagogie. Donc, vous intervenez également dans les cités scolaires et les universités. Comment vous opérez, justement, et est-ce qu'il existe un réel partenariat avec ces ministères et ces institutions ?
Là, justement, c'est un peu l'objet de nos interventions au plan local, si vous voulez. Là, clairement, on ne peut pas considérer que l'instruction civique, parce que pour nous, ça participe de l'instruction civique, la lutte contre la corruption, on ne peut pas dire qu'il y ait des structures qui soient en place, on ne peut pas dire qu'il y ait des démarches qui soient collectives, etc., etc. Là, il nous appartient, dans l'état actuel des choses, de faire des interventions, de proposer à des chefs d'établissement... Voilà, dans le cadre de telle et telle activité de votre établissement, est-ce que ça vous intéresserait qu'on vienne expliquer ce que c'est justement que le détournement, comment on peut le poursuivre, qui s'en occupe, comment ça se passe, etc., etc., de façon à qu'on ne se contente pas de dire « ouais, de toute façon, c'est comme ça ». Hein? Donc, de façon, il faut commencer tôt. Donc, c'est pour ça le collège, déjà, c'est pas innocent. Quoi.
Et la perception faite par les élèves est importante ou il y a un réel intérêt des élèves aspect-là
c'est très variable. Nous, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça, si vous voulez. Il y a des régions où ça a été pas mal développé, d'autres où ça n'a pas été fait du tout. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de recul par rapport à ça. Mais alors là, c'est très dépendant du type d'établissement, de la localisation de l'établissement, de la volonté des enseignants et des dirigeants de l'établissement de donner une certaine importance à la démarche. Enfin, là, c'est très, très variable, quoi. C'est très, très variable. Par contre, c'est très variable. Et dans certains cas, effectivement, il y a des individus, parce que là, on va raisonner avec la notion d'individu. Il y a des individus, des élèves, etc., qui sont très intéressés, parce qu'ils ont déjà entendu parler de ça, ou parce qu'ils ont la fibre, comme on dit. Il y a effectivement des jeunes qui réagissent, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui se demandent comment c'est possible, quoi, parce qu'il y en a qui découvrent, hein, complètement, quoi.
Ces interventions, toujours, sont permises grâce à l'agrément que vous avez ?
Non, toutes les associations ont capacité à intervenir au niveau des établissements scolaires. Ça se règle avec les chefs d'établissement, quoi. Ouais, bon.
Vous voulez vous exprimer sur le verrou de Bercy et d'expliquer ce que c'est précisément ? Ah.
Alors, vous savez, ça, le verrou de Bercy, c'est un petit peu emblématique de l'absence d'indépendance de la justice qui se vérifie à plusieurs niveaux. Par exemple, le procureur de la République, qui a la capacité de poursuivre les gens, c'est-à-dire de les traduire devant la justice, il dépend directement du ministère de la justice. Il n'est pas indépendant. Un juge d'instruction est un magistrat indépendant. Il mène son enquête comme il le souhaite, il met en jeu les moyens qu'il décide, etc., etc. Le procureur, ce n'est pas le cas. Je crois que déjà à l'époque de M. Giscard d'Estaing, il avait été dit qu'on allait rendre indépendants les procureurs, quoi. Vous avez constaté comme moi que M. Giscard d'Estaing a terminé son septennat, M. Mitterrand a poursuivi le sien, ça faisait partie de son projet, etc., etc. Et c'est surtout pas maintenant qu'on risque de voir arriver l'indépendance des procureurs. Ça, c'est un sentiment personnel, mais je crois qu'il est assez partagé. Donc ça, c'est un premier élément. Le verrou de Bercy, c'est un autre exemple. C'est juste un exemple. Le verrou de Bercy, ça concerne la fraude fiscale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de poursuite contre un fraudeur fiscal s'il n'y a pas l'accord du ministère des Finances. C'est-à-dire, si le ministère des Finances ne dit pas au magistrat, vous pouvez y aller enquêter, poursuivre, etc., il ne le fait pas. Donc, clairement, le procureur, là, non seulement il n'est pas indépendant, mais en plus, il est contraint. Parce qu'il ne peut pas intervenir, même si lui, procureur, avait l'intention de poursuivre, il ne peut pas le faire tant que Bercy n'a pas donné son feu vert. Il semblerait qu'on entende des bruits qui sous-entendrait que peut-être certains voudraient s'occuper du verrou de Bercy. Moi, j'attends pour voir.
Le secret des affaires, c'est aussi constitutif de ces problématiques de détournement, de corruption ?
Ah oui, tout à fait, parce que en fait, je dirais que le secret des affaires, et c'est le verrou de Bercy, c'est une illustration du secret des affaires, si vous voulez, parce que à partir du moment où Bercy n'autorise pas à poursuivre, on ne peut pas en parler. D'ailleurs, on ne peut pas, même si de toute évidence, Monsieur X ou Monsieur Machin ne paye pas d'impôts ou s'est débrouillé par le jeu de cabinet spécialisé d'échapper à la pression fiscale, comme on dit. On ne peut pas le dire, parce que ça devient illégal, si vous voulez. Donc là c'est fort, hein, parce que là, si vous voulez, là, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, là, on parle, c'est des sommes colossales, quoi.
Et puis, peut-être ramener aussi, avec l'actualité, la loi sécurité globale. Alors, on en parle énormément, justement, par le traitement fait de l'image qui pourrait être utilisée aux dépens des forces de l'ordre, par les médias ou des personnes mal intentionnées. Mais est-ce que ça, c'est une partie de l'iceberg? Qu'est-ce qui est caché derrière d'autres articles dont on parle moins? Est-ce que, justement... ce que vous proposez, vous, en tant qu'anticorps, rentrerait dans un certain collimateur, à commencer déjà par cet agrément qui aurait peut-être du mal à être renouvelé.
Alors, nous, si vous voulez, notre doctrine, c'est la transparence. Parce que la démocratie, elle n'existe pas s'il n'y a pas de transparence. Donc, à partir de là, si vous voulez, c'est très vaste, parce que toute démarche qui consiste à vouloir cacher, à ne pas vouloir dire, à ne pas vouloir parler d'eux, etc., etc., est en contradiction profonde avec ce besoin de transparence. Il existe même une institution, on va l'appeler comme ça, puisque ça en est une institution qui est la haute autorité pour la transparence de la vie politique, qui est bien connu maintenant, parce que nous y avons recours de plus en plus, parce que nous avons aussi un agrément auprès de cette instance. Donc, effectivement, chaque fois que nous avons le sentiment ou la certitude ou la preuve que les choses sont cachées, que les choses sont détournées, nous avons la possibilité d'intervenir aussi auprès de la haute autorité de la transparence de la vie publique, comme on l'a fait auprès de la Cour de justice de la République, puisqu'un ministre en exercice ne relève pas des juridictions traditionnelles. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, nous pensons, ça je peux le dire, nous pensons que ça procède d'une démarche globale, hein, puisque ça s'appelle globale, une démarche globale qui passe par la simplification des passations de marché public, la non-communication de certains documents qui étaient accessibles facilement, qui vont l'être certainement beaucoup moins, la réforme du fonctionnement de la CADA, la fameuse commission d'accès aux documents administratifs, et la loi de sécurité. Tout ça procède d'un état d'esprit et d'une démarche que nous considérons réfléchi, voulu et mené volontairement. Nous, les histoires de complot, c'est pas notre truc. Là, c'est simplement convergence d'un certain nombre de démarches dans un but bien précis, quoi.
Monsieur Claude Gingère, comment vous êtes-vous retrouvé au sein de Anticorps?
Oui, alors là, je vais dire que ça, je vais volontairement ne pas rentrer dans les détails. Là, je ne vais pas être très transparent, vous me le pardonnerez. En 2002, j'étais le directeur de campagne d'un candidat à la présidence de la République pour la région PACA. Et j'ai fait la connaissance à cette occasion d'un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Picard, lui je peux le citer, qui a été longtemps le président d'Anticorps, pas au moment de la fondation, mais après. Nous étions dans le même bateau au moment de la présidentielle de 2002. D'accord ? Donc, quand il a manifesté l'intérêt pour cette association et le fait qu'il allait s'y engager fortement, nous avons été en contact. Bon, sauf que moi, professionnellement, j'ai quitté le Midi pour aller travailler à Paris. Et du coup, entre le déplacement géographique et l'importance des fonctions, je n'ai plus du tout eu l'opportunité de d'y participer plus que ça. La retraite a fait que j'ai choisi de m'investir dans quelques activités, dont Anticorps.
Voilà. Il y a cette notion de colère, d'injustice aussi qui vous anime quand vous voyez ces travers.
Et ça, c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire, hein, commune à beaucoup.
Ça fait très longtemps.
Et pour terminer, vous avez une visibilité sur Internet, par exemple, pour les auditeurs sur Anticor.
Tout à fait. Alors, pour ce qui est d'Anticor, donc, il y a bien entendu notre site internet, qui, c'est anticor.org. Et nous avons aussi, donc, dans chaque département, quasiment, des référents comme moi, dont on peut trouver facilement les coordonnées sur le site internet. Si on descend en bas de la feuille, on va trouver une carte avec les différentes régions, les départements et les noms et coordonnées des référents. Nous proposons aussi une autre opportunité. C'est celle qui consiste à s'inscrire pour la newsletter d'Anticor qui paraît tous les mois, qui reprend les éléments en cours, les évolutions, les nouveautés, un certain niveau de réflexion. Et on peut s'inscrire toujours sur le site de anticor.org à cette newsletter.
Monsieur Claude Gingère, je vous remercie en tout cas d'être venu de loin venir nous parler d'Anticor au studio de RDWA. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Je vous remercie et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. Okay, the bird.